franceinter.fr.
À la une de la science aujourd'hui, les sous-sols de Paris qui révèlent des secrets uniques.
Sont-ils morts de la peste, de la variole ou de la famine? On ne le sait pas encore. À ce jour, le mystère de 200 squelettes découverts dans ce sol intrigue les chercheurs.
Et donc, une équipe d'archéologues de l'INRAP fouille en ce moment, jusqu'à la fin mars, les sous-sols du Monoprix du boulevard Sébastopol, dans le 2e arrondissement à Paris, puisqu'ils ont mis au jour les anciennes fosses communes de l'hôpital de la Trinité, fondée au 12e siècle. Pierre Vallat, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue directeur adjoint du centre Île-de-France de l'INRAP. Et vous êtes en charge de l'aspect scientifique de ces fouilles. Vous étiez encore sur place ce matin. Alors évidemment, c'est une très grosse surprise. Qu'est-ce qui a été trouvé exactement?
Alors, il a été trouvé en fait une partie du cimetière de l'hôpital de la Trinité lors de travaux. Enfin, il va y avoir des travaux donc d'aménagement du Monoprix. Ouais. C'est l'ancien bâtiment Félix Potin, fondé en 1910. Ouais. Et donc là, donc dans les sous-sols, voilà, on a ôté un niveau de béton qui était vraiment dernier sous-sol. Et juste sous ce niveau de béton, on est tombé sur plusieurs centaines de sépultures du cimetière médiéval et moderne, c'est-à-dire du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime.
Ouais, un peu plus de 200 squelettes, hein, c'est ça?
Voilà, j'étais à 229 ce matin. Voilà.
Ah oui, c'est vrai, vous êtes encore en train de les compter?
Oui, parce qu'en fait, c'est pas qu'on les compte, c'est qu'on a plusieurs étages de sépultures, et donc c'est comme un millefeuille, hein, donc on enlève couche par couche, et en fait, il est possible qu'on trouve encore d'autres tombes en dessous.
Ouais, d'après les photos qui sont sorties dans la presse là, ce week-end, on voit que ces squelettes sont très bien conservés.
Oui, ils sont très très bien conservés, ce qui est un atout pour en comprendre les aménagements funéraires, bien sûr, et puis pour analyser les ossements.
Alors, que disent les premiers résultats, justement? Parce que là, vous êtes en cours d'analyse. Il y a un peu, d'ailleurs, une course contre la montre, là, pour les équipes d'archéologues.
Oui, alors, il y a une course contre la montre habituelle dans le cadre de l'archéologie préventive. Oui. C'est-à-dire qu'on intervient suite à une prescription de l'État, ancienne. C'est une prescription de 2007. Mais les travaux, le projet d'aménagement, n'est ressorti que récemment. Mmh. Et donc, on est intervenu donc, depuis mi-février jusqu'au 20 mars, exactement. Et donc, on est limité, oui, en temps, comme à chaque opération préventive. Oui. Et donc, le challenge, c'est d'arriver à récupérer le maximum d'informations dans ce temps limité, avec une équipe, bien sûr, limitée.
Ouais, alors, les corps ne sont pas encore datés précisément, hein, ça fait partie justement des analyses. Qu'est-ce qu'on sait alors aujourd'hui, au moment où on se parle?
Déjà, ils ne sont pas datés précisément parce que c'est des inhumations sans mobilier. Donc déjà, on n'a pas de mobilier qui pourrait déjà nous guider, puisqu'on n'a pas
sur
de céramique.
Hein.
Le mobilier, généralement, c'est des vases, hein, en céramique, des petits objets de parure. Là, on a absolument rien trouvé, à l'exception de 2-3 petits fragments. Mm-hmm. Donc, c'est pas le mobilier qui va nous aider.
Les os?
C'est les os. Donc,
c'est
on va être obligé de faire
parler.
Des datations radiocarbone 14. Et, et c'est grâce à ces datations qu'on pourra dater, cerner la plage d'utilisation.
Ouais, vous avez une idée quand même, a priori, sur la période, ou pour l'instant c'est très ouvert,
hein? Alors, c'est pour ça que j'étais prudent quand j'ai parlé d'époque médiévale et d'ancien régime, donc sur une tranche très large de dizaines de siècles. Oui, mais de toute façon, ça correspond à la connaissance qu'on a de l'hôpital de la Trinité, qui a été utilisé longtemps, qui a servi longtemps, et on envisage que son cimetière a également servi
à partir jusqu'au 12e, hein, c'est ça, pour cet hôpital.
Du 12e jusqu'au 18e siècle.
Ouais. Axel,
on a une idée de qui étaient ces gens qui ont été inhumés ici?
Oui, alors on a une idée, on n'a pas pour l'instant le détail, il y aura des recherches à mener en confrontant avec les données, avec les sources écrites. Mais déjà, on peut envisager qu'on est sur des sépultures de personnes de milieu populaire, essentiellement.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
L'absence de
la fosse commune.
Voilà, le fait de faire des fosses communes, le traitement, en fait, un traitement qui n'est pas un traitement spécifique de qualité, l'absence d'un mobilier pareil spécifique, voilà, le fait que les tombes soient. Les gens sont pêle-mêle, ou par exemple, sont tête bêche plutôt.
C'est vrai, il faut voir, hein, voilà, c'est vraiment serré, un alignement de squelette. Hein.
Voilà, on a une gestion très très serrée de l'espace et en même temps une proximité des sépultures particulière. Ouais. Donc on est plutôt sur une population de gens pauvres, ce qui est tout à fait intéressant, puisque là, ce qui va nous intéresser, c'est également de voir dans quelle mesure cette pauvreté, comment elle est cernée, comment elle évolue, on le connaît historiquement, comment elle évolue du Moyen-Âge à l'Ancien Régime.
Ouais. François de Saint-Gly, ça vous intéresse, visiblement?
Non, moi, ce qui m'intéressait, c'était la couche de béton. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez dit, c'est juste en dessous. Ouais. Donc, ils savaient ce qu'ils faisaient, les
exactement.
Gens qui ont coulé.
Absolument.
Oui, quand le bâtiment... C'est quoi ce... ce rapport à l'histoire ?
Alors, c'est un rapport à l'histoire de 1910, ouais. Déjà, donc c'est un rapport à l'histoire ancien, et comme souvent, ben, on a caché, on a réenseveli. Alors, peut-être pour éviter des soucis de découverte, et encore à l'époque, c'était encore réduit au niveau de la sensibilité archéologique de sauvetage, mais aussi parce que c'est des sépultures. Voilà, on a affaire à des défunts, à des morts, et dans le cadre des morts, ben, la réaction des gens peut être de « on cache, on ne va pas les perturber, on ne va pas déranger, on est en 1910 ».
Ouais.
On retrouve d'ailleurs ce problème encore aujourd'hui. Hein. Il y a encore des réactions de personnes actuelles.
C'est-à-dire qu'on cache.
On cache.
Parce que là, on savait, on a vu effectivement les corps en 1910, ils ont coulé le béton sur ces corps et rien n'a été dit. Et précisément, c'est ce qui peut encore se passer aujourd'hui.
Alors, rien n'a été dit. On savait juste que dans le secteur de l'hôpital de la Trinité, on avait déjà trouvé des sépultures, donc des défunts. Mais c'est tout. L'information était très limitée, très, très réduite. C'est une information du 19e siècle. Voilà, c'est une mention, en fait.
Ouais. À quoi ressemblait ce cimetière, finalement ? Est-ce qu'on en sait un petit peu plus, là, sous le sol de Paris ?
Alors, pour l'instant, on le connaît par les plans, puisqu'on a des cartes anciennes, des plans anciens de Paris. Donc, on en a des représentations figurées. Donc, on a une idée à peu près de l'emplacement de l'hôpital lui-même, au sud, de l'installation du cimetière plus au nord, de sa répartition interne aussi, puisqu'on a une partie protestante, une partie catholique. Donc, on a déjà un peu une idée des choses, mais ce n'est pas encore précis.
Il était présent sur quelle surface, alors ? Parce que là, on est vraiment au cœur de Paris, hein, aujourd'hui.
On est sur une surface qui correspond à plusieurs centaines de mètres carrés, peut-être 1000 ou 2000 mètres carrés, voilà, ce qui est déjà pas mal.
Axel,
vous allez collecter les corps là, et les squelettes, et que vont-ils devenir une fois que vous les aurez étudiés ?
Alors, on les...
Le béton,
on les relève
le
d'abord. Béton. Alors on les relève, on en relève même carrément au demi-centimètre près, on va relever le mouvement des os, afin d'étudier l'évolution de ce corps dans le temps, comment s'il a été comprimé, comment on a l'impression de le voir. On a le sentiment qu'il y a des linceuls, des matériaux souples qui ont contenu le corps, qui l'ont maintenu. Donc on va faire ces relevés très précis, os par os. On le démonte en fait, on démonte des squelettes. Tout est numéroté, démonté. C'est ensuite, donc l'ensemble des ossements sont acheminés dans notre centre archéologique. Un de nos centres, ça sera celui de La Courneuve, où notre responsable d'opération qu'on n'a pas nommé et qu'il faut nommer, donc Isabelle Abadi, donc qui est la responsable scientifique pour l'INRAP, donc qui va étudier, qui est spécialiste en anthropologie et qui va nous étudier donc ces ossements. Ils vont être donc stockés et certains prélevés pour analyse en laboratoire.
Est-ce que certaines de ces découvertes sont susceptibles d'arrêter des travaux à un moment ou à un autre ? C'est-à-dire que là, on est en train de couler le béton pour faire autre chose. Mais est-ce que ça peut carrément interrompre un chantier ?
Alors, le principe de l'archéologie préventive, c'est d'éviter ça. C'est d'éviter au maximum ce stop and go qu'on a connu il y a quelques dizaines d'années. Donc, depuis une trentaine d'années, on essaie de s'insérer, de s'intégrer dans la chaîne opératoire de l'activité économique. Donc, on va éviter de bloquer en fait, l'activité. Les cas sont très rares de modification d'un projet. Il faut vraiment qu'il y ait des vestiges qui soient très différents de ce que l'on attendait, qui peuvent entraîner une petite évolution en termes de durée, ou alors véritablement une découverte exceptionnelle, qui est très cadrée juridiquement. Il faut vraiment une découverte...
C'est quoi alors une découverte exceptionnelle, par exemple ?
Quelque chose... Alors c'est très défini au niveau du Code du patrimoine. On a affaire à une découverte exceptionnelle à partir du moment où la découverte correspond à quelque chose de totalement inattendu par rapport au projet prévu, par rapport aux vestiges prévus, sur une période méconnue, ça peut être, ou un vestige de type très spectaculaire... Voilà, ou avec une conservation de grande qualité.
Pierre, voilà, une dernière question. On a une idée de la raison pour laquelle ces corps étaient alignés de cette façon-là ? Il y a des scénarios possibles ou pas ?
C'est un scénario de peu d'espace, de manque d'espace, et on gère en fait des grandes fosses, on gère cet espace pour...
Excusez-moi, ça ne peut pas être une épidémie où là, on
Les raisons.
Alors, mais c'est tout, l'inspecteur de Saint-Gly, il est au courant de toutes les affaires.
Alors les raisons sont de deux types. Soit c'est un événement catastrophique du type épidémie, maladie, qui fait qu'on a besoin de gérer un ensemble de défunts rapidement, c'est tout à fait envisageable. Soit il y a un événement militaire, un événement politique, qui fait que là aussi, on a besoin de gérer les corps très rapidement.
Bon, on en saura peut-être plus, en tout cas. Encore une question,
Je pensais à ça, parce qu'en 2003, quand il y a eu la canicule... Il y avait panique dans les hôpitaux parce qu'il n'y avait plus de place. Les pompes funèbres, tout le monde a été complètement... Et donc, on n'a pas osé, mais on les a mis dans des camions réfrigérés en attendant qu'il y ait de nouvelles places.
Ah oui, mais il n'y a pas de choses communes quand même.
Non, mais je veux dire, la question s'est quasiment posée.
Alors, on pourra peut-être avoir quelques idées avec le dépouillement des sources littéraires. Un événement particulier, est-ce que des narrateurs se vont mentionner Peut-être on pourra le raccrocher à un événement spécifique. Bon, c'est difficile, toujours, parce qu'on est sur des fourchettes chronologiques un peu larges, mais peut-être.
Les os vont parler, en tout cas. tout cas.
Les eaux vont parler, oui, oui.
Grâce au carbone 14. Merci beaucoup, Pierre Vallat, d'être venu nous en parler aujourd'hui. Donc, la découverte de ces squelettes, plus de 229 maintenant.
Pour l'instant.
Sous
l'instant.
Un supermarché parisien dans
chiffre
le 2e arrondissement. Merci à vous.
Merci.
Allez, et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, on parle d'une bactérie mortelle qui préoccupe les autorités de Louisiane. Aux États-Unis, des singes rhésus ont été infectés accidentellement par la bacille de Whitmore dans un centre de recherche de haute sécurité. Pourtant, cette bactérie provoque des infections pulmonaires et cutanées ou même des septicémies. Et le plus inquiétant, c'est que les autorités ne parviennent pas encore à comprendre comment l'infection a pu avoir lieu, étant donné que les singes n'étaient pas censés entrer en contact avec la souche. La forêt amazonienne fertilisée par le Sahara, une étude américaine estime que 27 millions de tonnes de poussière du désert sont transportées chaque année par les vents jusqu'en Amazonie. Cet apport est important, notamment en phosphore. Il est nécessaire pour l'écosystème amazonien au sol, pauvre en nutriments. Pour en savoir plus, vous pouvez lire entre autres l'article de Pierre Barthélémy sur le site du journal Le Monde. Une bonne nouvelle, les pandas vont bien. En 10 ans, leur nombre a augmenté de 17% en Chine. En France, le couple de pandas vedettes du zoo de Beauval se porte aussi très bien. Les chaleurs sont prévues en mars avec peut-être un bébé à la clé. Et puis on termine avec une idée gourmande, puisque manger son placenta après un accouchement serait une pratique croissante aux États-Unis et en Angleterre. Elle permettrait à la mère d'augmenter sa production de lait et de réduire le baby blues. Mais attention, aucune étude scientifique sérieuse n'existe malheureusement sur le sujet.